Il est 18h. Le journal avec Corinne Audouin.
Bonsoir. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qualifiés pour le second tour de la primaire des écologistes en vue de la présidentielle. 4 candidats sur 5 sont arrivés dans un mouchoir de poche. Détails et explications avec Laurence Perron dès le début de ce journal. Un enterrement sans hommage populaire ni décorum. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika a été inhumé cet après-midi à Alger. À Strasbourg comme à Paris, on a participé cette année à la journée sans voiture. Vous entendrez le reportage d'Olivier Vogel de France Bleu Alsace. Et puis un lundi sous la pluie, sauf autour de la Méditerranée. Prévision de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
On connaît désormais le nom des finalistes pour la primaire écologiste. 122 000 personnes s'étaient inscrites pour voter en ligne et choisir le candidat qui portera les couleurs de l'écologie à la présidentielle. Le scrutin s'était terminé à 17h. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Vous êtes dans le 19e arrondissement de Paris où les résultats viennent d'être annoncés. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau qualifiés pour le second tour avec des scores plutôt serrés, Laurence.
Oui, tout à fait. Personne ce soir ne fera la fête chez les écologistes, pas même chez Yannick Jadot où je me trouve, qui est arrivé en tête avec un score d'un peu plus de 29 500 voix qui ne lui permet pas d'envisager sereinement le second tour et ses partisans ici le savent. L'écoféministe Sandrine Rousseau qui portait un très long retrait de la vie politique et qui partait aussi avec une notoriété assez faible suite à l'affaire Baupin aussi. Un gros déficit de notoriété, couplé à un programme aussi très radical, et bien Sandrine Rousseau a réussi une très belle performance, tout comme Delphine Bateau, l'ancienne ministre de François Hollande, présidente de Génération Écologie, donc pas du parti, qui avec 23 801 voix, coiffe le maire de Grenoble d'un peu plus de 30 voix. Éric Piolle qui réalise très clairement une contre-performance. Alors, la politique, ça n'est pas des additions, mais si on additionne effectivement Sandrine Rousseau et Éric Piolle, qui ont tous les deux un programme plus insoumis, compatible, un programme de gauche plus radical, eh bien, l'eurodéputé Yannick Jadot, arrivé en tête, a du souci à se faire. La question est de savoir si, après un premier tour très courtois, il va y avoir un côté tout sauf Jadot pour ce second tour. Voilà, ça reste à voir avec les débats qui viendront.
Merci Laurence Perron avec les moyens techniques de Frédéric Kérou. Donc pour bien préciser, Yannick Jadot arrive en tête avec 27,7% des voix, suivi de Sandrine Rousseau, 25,14% des voix. C'est donc très serré, second tour du 25 au 28 septembre. Dernier épisode en date dans la crise diplomatique des sous-marins. Le président américain Joe Biden va s'entretenir au téléphone avec Emmanuel Macron. Échange prévu dans les tout prochains jours. Les Français espèrent des explications après la rupture par l'Australie d'un contrat d'achat de 12 sous-marins français au profit d'une nouvelle alliance avec les États-Unis. Depuis deux jours, le ministre des Affaires étrangères multiplie les déclarations outragées. Jean-Yves Le Drian a parlé de mensonges et de duplicité de la part des Australiens. Pourtant, en Australie, on affirme avoir fait part depuis des mois de ces doutes liés à la conception des sous-marins français, au retard pris dans leur construction. Écoutez ce qu'en pense la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret, membre de la Commission des Affaires étrangères.
Les Australiens étaient notre client, qui n'était pas content de la façon dont les choses évoluaient. Enfin, c'est une petite musique qui, depuis des mois, quand même, faisait entendre que les Australiens n'étaient pas heureux des retards, n'étaient pas heureux des surcoûts. Je pense qu'il eût été quand même judicieux de la part du gouvernement d'envoyer des équipes sur place pour essayer d'apaiser les choses, pour essayer de rectifier ce qui n'allait pas, plutôt que de laisser pourrir les choses. Je pense que le Parlement, de toute façon, va se saisir de cette affaire. Faire comme nous le faisons, nous l'avons fait au Sénat récemment sur Barkhane. Nous allons demander des comptes et soit le gouvernement ne dit pas la vérité et qu'il savait depuis longtemps et qu'il n'a pas agi et donc c'est sa faute, ou alors d'autres sont en faute parce qu'ils n'ont pas fait remonter des informations qui étaient nécessaires pour que le gouvernement puisse agir. Mais enfin, il fallait envoyer des équipes sur place, il fallait empêcher la décision et ne pas réagir ensuite brutalement quand celle-ci est prise, parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas faire grand-chose.
La sénatrice Hélène Conway-Mouret interrogé sur France Info. En Russie, c'est le dernier jour de vote aujourd'hui pour renouveler les députés. Scrutin sous tension après la décision des géants d'Internet d'interdire l'accès aux consignes de vote données par l'opposant Alexei Navalny. Et faute de concurrence, le parti au pouvoir Russie Unie devrait l'emporter. Des obsèques sans faste pour Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien, a été inhumé cet après-midi à Alger en présence de son successeur Abdelmadjid Tebboune. Il repose dans le carré des martyrs du cimetière d'El Alia, aux côtés des héros de l'indépendance algérienne. Récit de cet enterrement en catimini par notre correspondante au Maghreb, Alina Carr.
Ces obsèques sont décidément embarrassantes pour le pouvoir algérien. Abdelaziz Bouteflika n'a pas eu droit aux mêmes honneurs que ses prédécesseurs, privé notamment de la cérémonie de recueillement au Palais du Peuple. Aucun deuil national n'a été annoncé, des funérailles officielles mais discrètes. Les journalistes ont été empêchés d'accéder au cimetière, c'est le cas de ce journaliste.
Un policier tous les 2 mètres.
Les médias nationaux publics étaient les seuls à pouvoir accompagner les officiels dont le président actuel à l'intérieur du cimetière. Et pourtant, à l'heure des obsèques, la radio nationale diffuse cela. De la musique populaire. Ils ont reçu des ordres d'en haut, résume un journaliste algérien. Une femme renchérie. Les officiels ne peuvent pas prendre le risque de se recueillir devant sa dépouille en public. Ce serait une contradiction avec le discours officiel. Mais en privé, ils le feront tous. C'est leur maître. Le pouvoir algérien prétend avoir ouvert la page de l'Algérie démocratique. Nouvelle, après avoir lâché il y a 2 ans Abdelaziz Bouteflika. Un jeune ironise. Personne n'est dupe. Par contre, nous sommes enfin rassurés. Cette fois-ci, on en est sûr. Abdelaziz Bouteflika ne briguera pas de 5e mandat.
Le récit d'Aline Akar. Va-t-on vers un assouplissement du pass sanitaire selon les régions? Le gouvernement y réfléchit. La question sera au menu, en tout cas, du Conseil de défense. Probablement mercredi prochain, 30 départements sont passés sous le seuil d'incidence de 50 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. La journée sans voiture, ce n'est pas qu'à Paris. La capitale organise aujourd'hui sa 7e édition de ce rendez-vous. De plus en plus de villes tentent l'expérience, comme Angers, Bordeaux ou Clermont-Ferrand. À Strasbourg, c'était la première édition de l'opération Rue libérée, des voies fermées à la circulation de 9h à 18h. Le reportage d'Olivier Vogel.
Bien sûr, il y a les sceptiques.
Ouais, bon, moi je trouve pas ça particulièrement intéressant, mais bon.
Mais il y a surtout les enthousiastes. Ils flânent, discutent, font du vélo, du skate, de la trottinette au milieu d'une avenue qui habituellement voit déferler 18 000 véhicules par jour.
Il n'y a pas de voiture, c'est grave bien. Et en plus, c'est très écolo, on va dire, parce qu'il y a moins de pollution du coup.
Déjà, ça fait redécouvrir la ville. On la regarde différemment, plus doucement. Et puis la perspective d'être au milieu de la route et de voir en fait les bâtiments qu'on voit pas d'habitude parce qu'on est sur les trottoirs, en fait, provoque un sentiment de liberté.
Je suis résidente de la Plaine des Vosges et je trouve que c'est un vrai spectacle de voir cette avenue sans aucune voiture. Top, super.
C'est d'abord pouvoir montrer que c'est possible de fermer les rues au moins de temps en temps. Je crois qu'il faut continuer dans cette voie.
Pour la ville de Strasbourg, l'opération permet aussi d'envisager l'espace public sous un autre jour. Guillaume Lipsig, l'adjoint en charge des animations urbaines.
Une voiture, en fait, c'est 12 mètres carrés d'espace public privatisé pour un intérêt réel mais néanmoins personnel. Et une voiture, elle reste mobile 95% du temps. Donc vraiment, on a des ressources, d'espace qui peuvent servir à toutes et à tous d'une autre façon.
L'opération Rue Libérée est amenée à se renouveler, voire à s'étendre à d'autres quartiers de la ville de Strasbourg.
Et c'était le reportage Grave Bien d'Olivier Vogel. On termine avec la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Un lundi pluvieux au nord, Jean-Michel Golinski.
Une situation fortement pluvieuse ce lundi, notamment entre la baie de Seine, l'Artois, le bassin parisien, le centre, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Sur la Bretagne, du Cotentin aux Charentes et du Grand Est à la frontière belge, les averses seront espacées. Elles seront souvent beaucoup plus nombreuses et parfois orageuses l'après-midi entre les Pyrénées et les premiers contreforts du Massif central. Et il faut également envisager des orages d'évolution diurne sur les Alpes. Enfin, pour la Corse et le pourtour méditerranéen, le temps sera particulièrement bien dégagé avec 25 à 28 degrés l'après-midi et un vent moins fort que la veille. Il fera plus généralement aux environs de 18 à 20 degrés sur les autres régions.
Merci Jean-Michel Golinski.